Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde à Saint-Julien-en-Vercors aujourd'hui à l'occasion d'un événement qui est organisé par l'association Ça Marche et par la commune de Saint-Julien-en-Vercors. On se trouve dans les jardins de ville, il est 18h30, on a les falaises derrière nous. C'est un environnement qui est assez chouette et on se retrouve donc autour de la table pour parler d'un enjeu. C'est la rencontre de la pratique de la highline dans le Vercors spécifiquement avec les enjeux de biodiversité. Donc évidemment, on va définir un peu cette pratique de la highline que certains auditeurs et auditrices ne connaissent pas encore. Et puis après, on va parler de concertation, de conventionnement, des différents enjeux. Comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer, trouver un accord, une conciliation autour de ces sujets. Et puis on va finir par d'autres choses plus joyeuses qui sont la rencontre de cette pratique sportive avec notamment des formes plus artistiques et festives de convivialité comme ce qu'il y a ce week-end, donc cet événement Ça Marche Fit Saint-Julien en Vercors. Et avant tout ça, donc on va présenter les différentes personnes qui sont autour de la table. Donc je vais commencer par ma droite. On va commencer par toi, Nils, est-ce que tu peux te présenter ?
Je suis Nils Ruel. J'ai 28 ans et je pratique la highline depuis 7-8 ans maintenant. Et à côté de ça, je fais des travaux en hauteur cordiste.
Et tu es le président de l'association Ça Marche.
Et je suis président de l'association Ça Marche depuis 2 ans.
Merci. Marie-Odile.
Oui, moi je suis Marie-Odile Baudrier. Je suis élue à Saint-Julien-en-Vercors. Je suis également élue au parc. Et à ce titre-là, je représente le parc aux DESI. On pourra peut-être définir après ce que c'est.
Tu peux le définir maintenant si tu veux.
Alors, le comité départemental des espaces, des sites et des itinéraires. C'est ça, Noémie ?
Je ne me rappelle jamais.
C'est ça. Disons que c'est une structure départementale qui cherche à partager le territoire entre les sports de pleine nature et justement les enjeux de biodiversité au niveau du département. De la Drôme.
Merci. François ?
Eh bien, bonjour. Donc, François Haro, moi, je suis naturaliste avec le groupe LPO Royan-Vercors. Donc, nous, eh bien, on observe la faune, on fait des suivis réguliers toute l'année, même sur la faune sauvage en général, et en particulier sur les falaises, qui sont des endroits très habités.
Merci. Noémie ?
Et moi, c'est Noémie Castin et donc moi, je suis chargée de mission sport de nature au parc du Vercors. Et mon rôle, en gros, c'est de faire en sorte que les sports se passent bien sur le territoire. Donc ça passe par de la concertation, de la sensibilisation, mais ça peut être aussi réfléchir à comment organiser la pratique sur le territoire pour éviter que certains endroits soient surfréquentés ou ce genre de choses. Voilà.
Et moi, c'est Nicolas. J'ai commencé la slackline et la highline il y a un peu plus d'une dizaine d'années, 10-12 ans. Un peu dans le début de la highline dans le Vercors. On était un peu...
Et tu habites le plateau du Vercors, du coup ?
Maintenant, depuis un an et demi.
Ça marche, merci. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a différentes structures qui sont autour de la table. On a une association, on a une autre association de protection de la biodiversité. Deux institutions, donc une commune, l'institution du parc du Vercors, et puis un habitant, pratiquant historique. Et donc ça va nous permettre d'avoir plusieurs points de vue sur ces sujets-là, donc la biodiversité, la highline et la rencontre de ces deux enjeux. Et donc on va commencer par définir ce que c'est que la highline. Est-ce que quelqu'un veut s'y frotter ?
Eh bien, la highline, c'est la slackline de base, c'est une sangle qu'on tend au sol pour marcher en équilibre dessus. Donc contrairement au funambulisme où ça se fait sur un fil et avec une grande perche pour s'équilibrer, la slackline elle se fait sur une sangle un peu plus détendue, moins rigide qu'un câble, et on tient en équilibre dessus. Et par extension, la highline, c'est faire de la slackline à des grandes hauteurs, du coup entre des falaises ou entre des sommets de montagne, avec une sécurisation... un baudrier comme on trouve à l'escalade et une sécurité qui nous relie à la slackline.
Et c'est une pratique spécifique au milieu montagnard, en espace naturel, enfin, c'est quelque chose qui se fait plutôt dans la nature ?
C'est parti un petit peu de ça et ça a évolué. Et maintenant, on en trouve dans des milieux urbains, on en trouve en forêt sur des arbres assez hauts qui le permettent. Et ça s'est un peu répandu à plusieurs milieux différents. Mais nous, avec Ça Marche, la plupart des projets qu'on fait sont quand même dans des espaces naturels. Ouais.
Et peut-être Nico, est-ce que tu peux nous préciser, est-ce que c'est une pratique ancienne, la highline, d'une manière générale, et puis ou récente? Et dans le Vercors, est-ce qu'on la pratique depuis longtemps, la highline?
Alors historiquement, en France, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on en pratique depuis les années 2000 quelque chose, 2010 maximum, enfin 2005.
Donc c'est quand même assez récent dans la pratique du sport.
Ouais, en France, après ça vient des États-Unis et ça c'est encore un peu plus vieux, plus dans les années 80 je crois. Ça a mis du temps à venir jusqu'ici. Et dans le Vercors, on en fait depuis les années 2010, ouais, 2008, 2010 à peu près.
Et alors moi, on m'a dit qu'il y avait plusieurs manières de pratiquer la highline. Est-ce que vous pouvez me le détailler? Est-ce que c'est des communautés? Est-ce que c'est des clubs, des fédérations? Comment est-ce que ça marche?
Au début, ça s'est monté par des petits projets entre personnes qui pratiquaient la slackline et qui avaient des connaissances dans l'installation pour faire des installations en hauteur. Et petit à petit, des associations se sont créées. Aujourd'hui, là, il y a l'association française de slackline qui a été créée aussi il y a un an et quelques, qui regroupe toutes les associations françaises qui veulent adhérer de slackline. Et ça passe pas mal par des associations, des événements comme des festivals, comme il y avait eu dans le Vercors le MHP plusieurs années. Et après, par les connaissances aussi, la rencontre des gens qui pratiquent. Mais il n'y a pas vraiment de club sportif de highline et de slackline pour l'instant.
Et donc, vous arrivez, vous installez une ligne. Est-ce que une ligne reste tendue de manière pérenne, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous définir comment ça se passe quand vous arrivez? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est pour des événements? Est-ce qu'il y a des sites qui sont fréquentés régulièrement?
Donc, au début de la pratique, jusqu'à il y a quelques années, c'était très temporaire. On installait pour une ou deux semaines grand maximum. Petit à petit, il y a des endroits où les slacks sont restés plus longtemps, où différentes personnes sont venues les installer à différents moments, mais ça a créé un moment où il y avait une grosse fréquentation du lieu, comme à Serponçon par exemple. Et c'est des lieux du coup, où il a fallu discuter avec la commune, avec les acteurs locaux pour essayer d'encadrer la pratique pour pas que ça soit surfréquenté toute l'année et pouvoir organiser la fréquentation du lieu. Et après, il y a aussi des sangles, par exemple, quand je disais en milieu urbain ou périurbain ou dans les arbres, des sangles qui restent installés de manière plus pérenne, qui peuvent rester plusieurs mois installés et différents pratiquants viennent pratiquer.
Merci pour cette définition. Est-ce que Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose sur cet aspect de la définition pour que les auditeurs auditrices puissent comprendre en quoi ça consiste faire de la highline?
Oui, alors après, globalement, dans la pratique, du moins qu'on a dans le Vercors, à part les événements sportifs, les lignes, elles ne restent pas. Justement, enfin, on les met, ça va durer une semaine, deux semaines encore, c'est encore le cas aujourd'hui. On n'a pas de permaligne, ce qu'on appelle, enfin, de permaligne. Et du coup, donc les gens viennent en association ou avec des amis. Ils arrivent sur des sites, comme ici à Saint-Julien, des sites où il y a eu pas mal de conventions, il y a eu pas mal de dialogues et tout ça. Et des sites un peu moins connus, un peu moins utilisés. Enfin, il y a plusieurs sites dans le Vercors. Et en général, on vient, on installe les lignes. Il y a des ancrages, un peu comme en escalade. Et on vient installer la ligne. On reste quelques jours, quelques semaines. Et après, on retire la ligne. Et quand on part, il n'y a plus rien, quoi. En fait, il n'y a plus rien de visible.
Donc c'est une occupation temporaire de cet espace.
Très souvent quand même, ouais. Ici surtout.
Ok. Merci pour cette définition. Et maintenant, on pourrait essayer de se prêter au jeu de la définition des écosystèmes de falaises. Est-ce que François ou Noémie, vous pourriez essayer de définir que sont ces écosystèmes de falaises qu'on appelle rupestres, je crois. Qu'est-ce qu'on y trouve en termes d'espèces et en termes d'équilibre? Donc on parle de faune, de flore. Est-ce qu'ils sont plus fragiles qu'ailleurs? Est-ce qu'il y en a un bout de qui veut se lancer?
Alors oui, alors les falaises, c'est un milieu naturel qui est très occupé et très, très sensible. On ne dirait pas comme ça, mais les animaux qui y vivent, ils aiment bien être tranquilles et peuvent être perturbés très vite par l'activité humaine. Il y a en ce moment, depuis quelques années, les pratiques de loisirs qui volent autour des falaises se multiplient et la faune sauvage ne se multiplie pas comme ça. Et alors, elles ne peuvent pas non plus aller voir ailleurs pour se reproduire. reproduire parce que toutes les falaises de partout sont occupées par la faune et elles ont besoin de tranquillité à certaines périodes de l'année. Donc nous, on n'est pas opposé aux loisirs de plein air, hein, pas du tout. Mais il faut bien que les utilisateurs se rendent compte que c'est un endroit où il y a de la faune sauvage, où il y a de la flore sauvage, et qu'il faut la respecter. Et ça n'empêche pas de faire son loisir tout en la respectant. Et pour ça, il y a des règles. Les règles, il faut savoir ce qu'il y a au moment présent. Quand il y a ces activités, et il y a des périodes où il ne faut pas y aller, tout simplement, pendant les périodes de reproduction. Ouais. Voilà. Il y a aussi de la flore. J'étais avec un copain hier qui fait des études sur la flore de falaise. Et il y a des endroits très sensibles. Il ne faut pas gratter non plus dans les falaises pour pouvoir grimper et tout ça. Il faut respecter des plantes qui sont assez rares et qu'il faut laisser tranquilles aussi.
Et est-ce que justement tu pourrais nous donner des exemples d'espèces, soit animales, soit végétales, qu'on pourrait retrouver dans le Vercors ? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'on peut y voir. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples ?
En ce moment, on parle beaucoup du gypaète barbu qui niche donc dans le Diwa. Le gypaète barbu, il faut qu'il soit tranquille. Il a une période de reproduction qui est très longue et il ne faut surtout pas qu'il soit perturbé. Il ne faut pas qu'il y ait des parapentes ou des grimpeurs qui viennent y aller. Donc maintenant, il y a des outils officiels pour protéger ces falaises qui sont relativement respectés, mais pas que. Voilà. Et puis, par chez nous, donc nous dans le Royan, on a l'aigle royal et le faucon pèlerin, par exemple. Au printemps, il faut éviter à partir du mois de février. S'il y a des grimpeurs ou des gens qui passent en parachute, qui peuvent vraiment les déranger.
Donc là, on parle de grands rapaces.
Voilà, de grands rapaces. Le faucon pèlerin n'est pas très, très farouche, mais par exemple, l'aigle royal, il peut être vraiment très sensible au dérangement. Et on a eu un exemple sur l'Isère là, cette année. Ça a besoin de concertation. Il faut vraiment que les autorités qui sont là soient au courant de là où il ne faut pas aller à certaines périodes de l'année. Et puis le faire respecter, parce qu'après, il y a les dirigeants officiels, puis après, il y a les pratiquants qui pratiquent ce qu'ils veulent. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est compliqué, ça peut marcher que par le dialogue. Je veux dire, nous, on est là pour savoir ce qui se passe, où la faune est là.
Parler, ouais.
Voilà, et donc c'est pour ça que je suis là.
Super, merci. Noémie, est-ce que tu as d'autres espèces que tu pourrais nous citer sur ces écosystèmes de falaises, peut-être de la flore ? On n'a pas encore parlé de flore.
Oui, du coup, sur le Vercors, justement, on a deux exemples, en fait, qu'on peut citer. On a le genévrier turifère, qui est justement une espèce avec laquelle on a discuté avec les Highlanders, puisque c'est un arbre en fait qui est relativement rare, alors pas sur le Vercors, mais à l'échelle française.
Qui ressemble à quoi, cet arbre ?
Alors, les genévriers, je ne sais pas comment dire, car ça, c'est une sorte d'arbuste ou petit arbre un peu biscornu avec des aiguilles, voilà. C'est un conifère et ça ressemble un peu aux plantes du sud qu'on peut avoir et qui se plaît bien sur les falaises, mais qui pousse très lentement du coup et qui est assez fragile. Et on a discuté notamment avec la Highlander à ce niveau-là, puisque des fois, on peut être amené à mettre des ancrages sur des arbres parce que c'est compliqué en falaise ou parce que justement, on ne veut pas laisser de traces. Et il y a certaines espèces sur lesquelles il faut éviter de mettre un arbre. Voilà, c'est quand même plus judicieux de mettre sur un être qui est un gros être bien solide que sur un genévrier turifère par exemple. Et après il y a une autre espèce aussi qui est le myodotis des grottes. Alors j'ai oublié son nom latin, je l'avais révisé mais je m'en rappelle plus. et qui est une espèce, une toute petite espèce. Le myodotis, c'est une petite fleur bleue qu'on peut retrouver, mais il y en a plein des types de myodotis. Et cette espèce, elle est hyper rare dans le monde. On a une station en France qui a 800 pieds à peu près. Et donc, on a une énorme responsabilité dans le Vercors. En fait,
elle se trouve dans le Vercors, voilà. C'est une station française.
Et il y a même pas une dizaine de stations dans le monde et on en a une dans le Vercors.
Donc, c'est hyper précieux.
Voilà. Et du coup, justement, on l'a trouvée pas très loin de Bourgnillon aussi. Et du coup, on a discuté avec les grimpeurs pour enlever certaines voies qui passaient juste à côté de cette espèce. Enfin, voilà. Donc, c'est une plante à laquelle on peut passer complètement à côté si on ne la connaît pas, quoi.
Donc on en arrive à cette question de la sensibilisation et de la concertation, donc on va petit à petit y arriver. Moi je voulais savoir quel était l'état de connaissance de la faune et de la flore sur les falaises, parce qu'en fait c'est quand même des environnements qui sont assez hostiles, on n'y accède pas facilement. Est-ce qu'on les connaît bien, ces milieux ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ? Quel est l'état un peu de la connaissance ? Marie-Odile.
Oui, moi, je vais intervenir au titre de élue de Saint-Julien-Vercors. Donc, on a fait à Saint-Julien-Vercors, avec le soutien du parc du Vercors, un ABC, donc un atlas de la biodiversité communale. Donc, on a commencé à faire l'inventaire de cette biodiversité et le myosotis peluncicola.
On l'a.
Voilà, en fait partie, bien sûr, puisque c'est une espèce avec enjeu. Du coup, en tant que commune, on fait ces inventaires justement pour avoir la connaissance qu'on n'a pas, on a très peu finalement, de la richesse et de la grande diversité en tant que faune et flore sur... bon, je prends pour exemple la commune de Saint-Julien, mais les ABC se font dans maintenant, je crois, 60 communes du parc du Vercors. Voilà, les communes... petit à petit, mettent en place leur atlas de la biodiversité communale pour avoir cette connaissance qui est si précieuse et qu'on voudrait partager, faire partager. Et avec cette connaissance, on peut justement sensibiliser les sportifs voilà, de pleine nature à la richesse et à la préservation voilà, de ces espèces.
Ouais, je crois que c'est ce qui nous rassemble tous autour de cette table, c'est cette question de l'émerveillement, de l'amour qu'on a pour ces milieux qu'on veut protéger, dont on veut prendre soin, et puis on les habite aussi. Et habiter, c'est pas seulement se déplacer, c'est aussi prendre soin, c'est aussi faire des loisirs, c'est aussi cohabiter, se rencontrer. Et voilà, je voulais le souligner parce qu'on a tous des regards et des vécus différents, mais on se retrouve quand même autour de cette table à partir de ça. Et donc on en arrive donc à la rencontre de ces deux pratiques, en tout cas de la pratique de l'highline avec le milieu des falaises. Et donc on se rend compte qu'il y a besoin de sensibilisation, de connaissances, de prendre soin. Et ça passe par la rencontre. Et donc on va prendre l'exemple de Saint-Julien-en-Vercors terrain d'études, terrain d'expérimentation. Où vous avez mis en place donc, un conventionnement pour pratiquer la highline. Il y a eu des visites de sites avec les différents acteurs. Voilà, donc, mais avant tout ça, je voulais... juste faire un petit point de vocabulaire encore, c'est quoi une concertation pour vous? C'est un mot qu'on entend souvent en ce moment, la concertation.
Oui, je peux répondre. Ouais. Du coup, la concertation, c'est en gros rassembler les acteurs, les différents acteurs autour d'une table. Donc, typiquement sur le Vercors, ça va être les communes, ça va être le parc du Vercors, ça va être les associations de protection de la nature, ça va être les pratiquants, donc représentants de fédérations, les socioprofessionnels, les associations, les clubs, etc. Ça peut être aussi le conservatoire d'espaces naturels, c'est souvent les départements aussi qui sont conviés. Puisqu'ils sont compétents en termes de sport de nature, par exemple. Et l'idée, c'est en fonction des besoins de réunir ces acteurs-là, de discuter des besoins de chacun, puisque les pratiquants vont avoir des besoins, notamment quand on parle de socioprofessionnels qui ont peut-être leur métier, qui en vivent, etc. Et puis les naturalistes ou d'autres aspects environnementaux. Les communes, les propriétaires même, j'ai pas cité, mais qui peuvent avoir aussi leur vision, leur peur souvent, peur de la responsabilité, on en reparlera sûrement après avec les conventions. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions, et des solutions qui conviennent à tout le monde et qui ne soient pas d'interdire totalement, parce que ce n'est pas le but, mais c'est de trouver des solutions qui conviennent le plus possible à tout le monde.
Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Vas-y, François.
Oui, pour le myosotis, donc c'est sur Saint-Julien-en-Vercors, on est bien d'accord.
Oui.
Une vraie rareté. Et donc, un des personnes, des grands botanistes qui l'ont trouvé, c'est Luc Garraud, qui va être à Saint-Martin-en-Vercors, on le fait venir le 16 novembre. Donc, c'est une invitation. Et il y a aussi une fougère qui est très rare. Donc, il y aura aussi celui qui les cherche et qui les découvre sur les falaises. Et pour la connaissance des falaises, donc maintenant il y a des gens des botanistes qui sont sur les grimpeurs qui étudient ça. Et par rapport aux naturalistes, nous on les connaît de plus en plus parce qu'on est de plus en plus nombreux en tant que naturalistes dans les associations, d'une part, et d'autre part avec le matériel, avec les lunettes, maintenant on peut voir à des kilomètres si un aigle royal passe, une niche et tout ça. Et donc on a une connaissance qui est de plus en plus affinée en fait, hein, ça c'est certain. Et donc l'idée c'est de faire faire des prospections en commun avec tous les acteurs, donc les élus et tous les animateurs de différentes activités. C'est ce que j'essaye de proposer, qui n'est pas toujours écouter, mais ça avance comme ça. Je pense que l'idée, c'est ça. Quand on voit les rapaces qui nichent à un endroit précis, ben, tout le monde peut se voir, tous les pratiquants, voilà, les pratiquants, y compris les propriétaires, ils voient que cet animal, il a besoin d'être tranquille pendant un certain temps. On n'est pas là pour interdire tout de partout, évidemment, hein. Mais à certaines périodes, il ne faut pas y aller. Et puis voilà. Et de plus en plus, la concertation, ben, c'est pas une idée, c'est indispensable.
Mais vous, en tant qu'association, donc la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, l'antenne Royan-Vercors, vous participez de temps en temps à des temps de concertation?
Oui,
comme
oui,
ça.
Donc là on propose et on est demandeur justement de participer à ces actions, bien sûr.
Pour répondre justement à ça, c'est vrai que je parlais justement que dans les processus de concertation, il y avait les assos naturalistes et notamment la LPO avec lesquelles on travaille aussi bien côté Isère que côté Drôme. Et côté Drôme, la LPO est conviée quasiment à chacune des concertations pour apporter les connaissances naturalistes, puisqu'ils ont des connaissances que nous, on n'a pas. Et inversement, on a des connaissances au parc que eux n'ont pas. Donc l'idée, c'est d'échanger et dans le cadre de labellisation de sites, par exemple l'Obdési par les départements, il y a une demande et il y a des financements qui sont dédiés à des inventaires s'il n'y a pas de connaissances, par exemple, sur certains sites. Ça a été le cas sur Bourgnillon, suite à la labellisation du site. Eh ben, il y a eu une étude pour suivre le faucon pèlerin, savoir exactement où est-ce qu'il nichait, voir s'il y avait un impact, etc.
Donc, et quand tu parles de labellisation du site, de quoi tu parles?
Alors, labellisation, c'est peut-être pas le bon terme, mais en fait, les départements, ils ont des plans, donc elle a dit le BDESI, plan départemental d'espace, site et itinéraire. Le but, c'est de classer un site qui est en jeu ou sur lequel il y a des problématiques ou il y a pas mal de fréquentation et il faut qu'elle soit cadrée, par exemple. Et ça permet de cadrer cette pratique, d'apporter des financements, que ce soit pour eux-mêmes de la signalétique, de la sensibilisation, etc. Voilà.
Ok, merci. Marie-Odile ?
Oui, je vais compléter. Et dans ce cadre-là, on a eu donc une journée de partage des connaissances. C'était en septembre 2024. Et donc, on parle là de concertation, hein, parce qu'on avait les naturalistes qui étaient présents, on avait les associations de sportifs de pleine nature, il y avait les highliners, il y avait les grimpeurs, il y avait les spéléos. On avait encore les base jumpers, puisqu'on a aussi sur Saint-Julien du base jump. Et pas que, je dirais. Il y a aussi les professionnels qui habitent le village, comme les exploitants forestiers. Voilà, il faut aussi se concerter avec eux, les paysans, les éleveurs qui occupent ces espaces. Voilà.
Ouais, on se rend compte qu'il y a une multitude d'usages de ces espaces.
J'ai
finalement
pas fini, il y a les chasseurs aussi. Voilà, c'est un loisir. Bon, il y a le loisir sport de pleine nature, mais on a aussi des associations de chasse. Et la concertation, elle doit passer à mettre tous ces gens autour de la table pour pouvoir se partager le territoire.
Et alors vous, en tant que pratiquant de Highline, est-ce que c'est quelque chose de nouveau quand vous arrivez sur un site de faire de la concertation, d'aller à la rencontre des différents acteurs, là d'une commune, d'une association naturaliste? Comment c'est venu pour vous cette pratique de la concertation?
Ça a toujours un peu existé quand même de faire des demandes ou des autorisations. Mais c'est vrai qu'ici dans le Vercors et à Saint-Julien notamment, on est bien accueilli, on va dire, et surtout il y a un vrai dialogue, il y a vraiment de la concertation, en fait on discute et on cherche des solutions, on n'est pas juste, enfin les gens disent pas juste non c'est pas possible, voilà, et du coup on trouve, comme on disait tout à l'heure, des périodes de pratique où ça permet à tout le monde de s'y retrouver, on trouve des solutions aussi avec les propriétaires ou avec les exploitants et tout ça. Là, notamment la journée du partage, c'était incroyable parce que...
Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est?
Ouais, c'était la journée du partage dont parlait Marie-Odile juste il y a 5 minutes et qui a eu lieu en septembre l'année dernière. Et en fait, je trouve que cette journée, elle a servi à plein de gens. En fait, tout le monde avait un peu des a priori sur des connaissances des uns et des autres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en une journée, juste en discutant un petit peu, on avait très facilement trouver des solutions pour régler plein de choses, quoi. Et c'était même pas le but, en plus à la base c'était vraiment de juste se rencontrer et d'échanger, il n'y avait aucune vocation de prendre aucune décision, d'ailleurs il n'y a aucune décision qui a été prise, mais le fait de discuter, ça a permis de se rendre compte que tout le monde était dans l'envie de faire les choses correctement et de se trouver un espace de pratique et de discussion, voilà. Et donc c'était hyper, hyper bénéfique, et il y a pas mal de choses qui sont mises en place ici dans la Drôme, dans le Vercors, dans le Vercors drômois, Saint-Julien et tout ça, pour, en allant dans ce sens-là. Quoi. Donc c'est hyper intéressant.
Tu voulais rajouter quelque chose, Nils, à propos de cette étape de la concertation. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi d'aller rencontrer différentes associations, une commune? On m'a parlé de visites de sites où vous allez sur les lieux avec d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous en parler en tant que pratiquant?
Pour nous, quand l'association a été créée, c'était pour pouvoir demander des autorisations et faire que ces projets-là soient en accord avec les acteurs locaux, que ce soit pour la protection des espaces qu'on fréquente ou que ce soit pour les autorisations aériennes. Et petit à petit, il y a des connaissances forcément qu'on n'avait pas sur les espèces de tels ou tels endroits. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même important parce que c'est des lieux qu'on chérit, qu'on trouve magnifiques aussi par leur diversité. Et on se rend bien compte que c'est des espaces sensibles ou des espèces... Il y a peu de fréquentation, mais il y en a de plus en plus. Et forcément, ça a un impact dessus. Du coup... petit à petit on a pu concerter des acteurs dans le dévolu, c'est arrivé avec Natura 2000 de faire des visites de sites pour un projet particulier avec des espèces florales sensibles et du coup une journée d'échange de connaissances pour que nous on ait les informations et les connaissances pour essayer de limiter au maximum notre impact. Et après, nous, avec l'association, on a beaucoup des projets qui sont temporaires et qui sont pas forcément, qu'ont pas la visée d'être forcément répétés derrière. On n'a pas pérennisé d'endroits où on s'entraînerait, où on répéterait souvent des lignes. Mais ouais, c'est important pour nous. Et ça, comme je disais, c'est des connaissances qu'on n'a pas forcément. Et on est curieux de ça pour pouvoir... pratiquer en ayant le moins d'impact possible sur ces lieux qui sont magnifiques et Vercors notamment.
Merci et peut-être que justement on peut prendre le cas donc de Saint-Julien dans cette idée de la convention. Donc vous avez rédigé une convention. Qu'est-ce que c'est une convention? C'est un cadre. On parle depuis tout à l'heure de pratiques qui n'avaient pas de cadre avant. On essaye de leur trouver un cadre. En quoi ça consiste un conventionnement et qu'est-ce que ça représente pour vous?
Alors là c'est on n'a pas encore finalisé la rédaction de la convention justement, mais c'est des actions du BDESI justement tout ça, c'est ces actions de concertation qu'on fait le BDESI, où ils ont déterminé qu'ils ont fait intervenir des spécialistes de la biodiversité, les acteurs locaux, la mairie et tout ça, ils ont concerté tout le monde. Et autour de ça, on a réussi à discuter, à dialoguer et à trouver des solutions pour que nous, on puisse avoir un espace de pratique à Saint-Julien avec des périodes de pratique. Qui correspondent et qui bloquent tout le monde, enfin qui ne bloquent personne en tout cas.
Et du coup, ça implique que vous vous sentez aussi peut-être plus légitime d'intervenir, enfin de faire de la pratique à un endroit dans le sens où il y a eu de la concertation, il y a eu un accord, il y a eu un travail de diplomatie qui a été trouvé, une entente qui, dans ce cadre-là, vous vous sentez aussi peut-être plus libre de pratiquer, quoi.
Ouais, c'est ça. On se sent, ça pérennise les actions, quoi. En tout cas, ça permet qu'on puisse se dire, ok, on va pouvoir pratiquer ici tant qu'on respecte les règles. Et c'est le but de.
C'est une sorte de charte aussi, enfin.
La charte, ça va être autre chose. La charte, ça va être plus sur le Vercors en général déjà, sur tout le Vercors. Et sur la charte, on va plus dialoguer sur toutes les différentes possibilités qu'il y a de faire de la highline dans le Vercors. Donc on va parler des projets éphémères comme Font ça marche, on va parler des spots périns comme Saint-Julien, et on va parler de nouvelles ouvertures de spots éventuellement, quelles vont être les démarches, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir créer des nouveaux spots ou répéter des spots existants ou créer des projets éphémères. Et la charte, c'est un peu un guide de la bonne conduite, comment on va mettre en place, pour mettre en place ces choses-là en tout cas.
Okay.
Et un respect, c'est des règles assez simples aussi, mais qui sont pas connues de tous et tout ça. Les périodes de nidification et tout ça, c'est des trucs que tout le monde ne connaît pas et qu'on apprend de plus en plus. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre pratique, on se rend de plus en plus compte que okay, le printemps, il ne faut pas qu'on aille pratiquer dans énormément de spots, en fait, c'est pas la peine. Mais on sait qu'on a de la pratique quand même de juillet à décembre, où on est quand même vachement plus tranquille. Après, nous, décembre, il y a la neige qui, en fonction de l'altitude, qui peut être problématique. Mais au moins, on a de toute façon 6 mois de l'année aussi où on peut pratiquer. Et donc voilà, c'est très bien, en fait. Nous, on trouve ça super. En fait, on a 6 mois pour nous, 6 mois pour la biodiversité. Globalement, ça marche bien. Enfin, en tout cas, c'est respecté parce qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. Voilà.
Et donc dans cette notion de conventionnement, donc il y a un aspect respect de la biodiversité et de sa saisonnalité qui, j'imagine, est rédigé donc dans ces moments de concertation où on trouve toutes les briques qui vont permettre de trouver cet équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres notions ? Est-ce qu'il y a la question, je ne sais pas, de la fréquentation ? Est-ce qu'il y a un rapport au risque ou à l'assurance
Pour nous, communes,
en tant que commune, ouais.
Voilà, il y a un risque qui est de plus en plus présent, c'est la surfréquentation, voilà, qui quand même connu une flèche, hein, depuis quelques années. Voilà. Alors on est très accueillant, voilà, on accueille avec plaisir les sports de pleine nature et les sportifs, mais avec, comme le disait Nicolas, en respectant certaines règles, parce qu'il peut y avoir parfois des sportifs qui peuvent des sports de pleine nature qui peuvent se développer de manière un peu sauvage, et ça a existé dans le passé, et ensuite qui entraîne un rejet aussi des professionnels, comme je parlais tout à l'heure, des bûcherons, des paysans, d'une surfréquentation qui peut par exemple boucher des accès à leurs champs ou boucher des accès à leurs forêts.
Ouais, donc et là, ça, on voit des impacts directs que peuvent avoir
Sur l'économie.
Sans cadre, entre guillemets.
Et tout en disant que les sportifs, eux aussi, c'est une économie, c'est l'économie touristique. Donc, bien sûr que nous, en tant que commune, on est tout à fait favorable au développement de cette économie touristique que représentent les sportifs, les sports de pleine nature, mais tout en l'encadrant, quoi. Voilà, pour que ça devienne quelque chose que tout le monde accepte du côté des professionnels et également des autres habitants et des différents sports de pleine nature. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même entre la highline, le canyoning, la randonnée, l'escalade.
Il y en a une longue liste.
La liste est longue et il faut que tout le monde puisse vivre ensemble, d'où ces conventions, elle est pratiquement rédigée, ça va se faire. Elle n'est pas encore signée. Voilà.
La charte, oui.
Du coup, justement, je peux rebondir un peu sur cette charte, parce que du coup, moi, ça fait un an que je suis au parc, donc j'ai repris en cours la rédaction de la charte, mais du coup, qui est finalisée maintenant. Et pour refaire un peu l'historique justement de cette charte, en fait, elle est issue d'un constat notamment des communes en fait sur le Vercors qui recevaient les demandes des highliners, mais pas que, des grimpeurs, etc. aussi, et qui au niveau de la highline ne savaient pas trop comment répondre. Souvent, dans le cadre des pratiques sportives, les communes se réfèrent au parc pour avoir un avis justement sur un avis positif ou négatif sur ce qu'on pense au vu de la biodiversité, etc. Et du coup, les demandes étaient, on va dire, de plus en plus fréquentes. C'est pas tous les jours qu'il y a des demandes quand même, mais voilà. Et il y a eu vraiment un besoin ressenti en fait de cadrer un peu les manières de demander. Surtout que, justement, comme l'a dit Nicolas, en fait, c'est souvent la même chose. Soit c'est des sites qui sont déjà pratiqués, et du coup, c'est toujours les mêmes demandes, toujours les mêmes interlocuteurs. Et inversement, les nouveaux sites. Il y a toute une démarche à faire, et plutôt que de jamais savoir comment répondre, en fait, il y a une démarche, une méthodologie qui a été mise en place. Donc ça fait plus d'un an et demi que cette concertation s'est faite justement pour essayer de rédiger ensemble la charte. Donc elle s'est faite en co-rédaction avec les highliners et le parc, avec une relecture par les assos naturalistes, le conservatoire d'espaces naturels et les départements. Et du coup, cette charte, elle est finalisée. Donc dedans, il y a le descriptif justement dont on parlait, de tous les écosystèmes et des espèces, et aussi de l'impact que peut avoir la highline sur ces écosystèmes. Donc on a parlé des falaises, mais il y a aussi l'impact sur les milieux forestiers, les pelouses alpines.
Qui sont traversées pour accéder aux falaises.
Exactement, les couloirs de migration, tout ça. Et puis il y a cet aspect méthodologie, comment on demande à ouvrir un nouveau projet. Et donc, il y a une plateforme sur le parc qui s'appelle Biodivertical, qui est utilisée depuis 2017 par les grimpeurs. Et donc, depuis cette année, elle est aussi utilisée pour les highliners. Donc, c'est juste une plateforme en ligne où on saisit un dossier. Le parc le reçoit et ça permet de répondre plus rapidement en fait, aux demandes. Voilà.
Donc ça, c'est un outil que vous avez mis en place. Exactement. Pour trouver justement une solution de communication et un protocole un peu classique, quoi.
Voilà, exactement. Donc cette charte, elle est rédigée. Maintenant, la méthodologie est faite et elle est mise en signature. Elle devrait être finalisée et diffusée prochainement.
C'est ça, il nous reste à la signer, à nous, à la communiquer, enfin, au point de vue des highliners, du moins. Parce que bon, elle n'a pas été signée encore par suffisamment d'assauts. Et après, il faut qu'on communique dessus, quoi. Voilà, l'idée, c'est qu'elle se déploie et que les gens en entendent parler et qu'on fonctionne de cette façon, quoi.
Et justement, vous, en tant qu'association de pratiquants, donc il y a eu cette question de la charte, il y a un peu le fait de communiquer sur la bonne conduite, même si c'est un peu bizarre de dire il y a une bonne conduite et pas une autre, mais en tout cas, il y a un enjeu à partager un peu ça, cette démarche que vous avez acquérie, quoi, cette sensibilisation, ça passe par ça et par votre réseau aussi. Enfin, c'est aussi, j'imagine, l'utilité de se fédérer en association, à la fois pour avoir un poids, justement, pour communiquer avec un parc, une commune.
Ouais. Et c'est aussi un des buts de l'association française de Slackline, pour pouvoir... parce que nous, on est une petite asso, on est une vingtaine, on a longtemps été 12, mais on est loin d'être les seuls pratiquants de la highline en France qui potentiellement peuvent venir installer dans le Vercors. Du coup, ça a aussi pour but de pouvoir diffuser des informations comme ça et sensibiliser les autres pratiquants aussi du fait qu'on est de plus en plus de pratiquants et que si on veut garder la possibilité de le faire et de le faire dans des bonnes conditions, il faut qu'on se concerte aussi entre slackers et qu'on diffuse ces informations-là. Et c'est important parce que... le nombre de pratiquants, ça reste très marginal, mais il a quand même fortement évolué. C'est un sport récent et il peut potentiellement encore évoluer.
C'est ce que j'allais dire. Plus il y a de pratiquants qui sont sensibilisés aussi, plus il y a de pratiquants observateurs, observatrices. On imagine que vous êtes quand même des personnes un peu privilégiées qui peuvent aller explorer voilà, ces vires, les falaises, les sous-bois. C'est pas des endroits où on se balade tous les jours et... Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un modèle qu'on pourrait imaginer où, avec une sensibilisation un peu fine, vous pouvez aussi être des observateurs privilégiés, faire remonter des infos à un parc, à une association locale de protection de la biodiversité? Est-ce que ça, c'est des choses... voilà, se dire, ah tiens, j'ai vu peut-être un nouveau spot de ce myosotis super rare, j'ai vu un nid, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous arrive de l'imaginer?
En tout cas, il y a déjà eu des exemples de formation dans certaines associations où on a formé des gens sur l'essence des arbres, par exemple. On fait beaucoup de slackline dans des parcs aussi, dans des parcs de ville et tout ça. Et il y a eu des moments où on a appelé des personnes spécialistes des arbres et tout ça. On leur a demandé de nous former sur quelle espèce d'arbre était sensible, à quelle époque il fallait plus ou moins tendre des lignes, parce qu'en fait, il y a des montées de sève et des descentes de sève. Et il y a des moments où en fait, les arbres ils sont aussi plus sensibles à l'étranglement qu'on peut mettre sur des slacks. Et je ne sais pas s'il y a des exemples avec la LPO ou des naturalistes en général, mais je pense que ça a dû être fait. Et ce ne serait pas du tout étonnant, en tout cas, qu'il y ait eu des rencontres entre des naturalistes et des highliners pour connaître un peu les espèces naturelles qu'on peut trouver sur nos propres sites locaux, ouais. Et tout ça.
Faire remonter des observations, ouais. En tout cas. Est-ce que, François, il y a déjà eu des exemples comme ça dans le Royan Vercors d'infos qui remontent de pratiquants sportifs qui vous disent « Ah tiens, sur telle falaise, j'ai cru voir un nid, est-ce que c'est un nid ?»
Ah oui, ça a été arrivé dans les gorges à Sainte-Eulalie quand les grimpeurs ont trouvé le nid et les œufs de Grand-Duc, d'accord, au départ. C'est là on a vu qu'il fallait... donc il a été dérangé au moment de couvaison, donc il est parti, donc il n'y a pas eu de couvaison. Voilà, donc c'est à partir de là qu'il y a eu de la concertation et que globalement ça s'est plutôt arrangé. Et que pendant, justement, l'idée c'est que les Grand-Ducs sont très fidèles à leur nid. Donc là, ils peuvent éventuellement nicher à côté, mais c'est arrivé aussi. Et voilà, donc c'est arrivé, oui. mais ce n'est pas forcément systématique. Et moi, je voudrais savoir, au niveau du parc, s'il y a des nouveaux spots qui sont engagés, que ce soit des grimpeurs ou des skatelanes, qui ne passent pas par le modèle officiel, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, nous, ce qu'on essaie de communiquer justement avec les grimpeurs et les aligners, c'est de plus en plus de passer par cette plateforme. Donc, moi, je suis depuis un an au parc et en fait, juste entre 2017 et mon arrivée, on va dire que les demandes, elles prenaient des fois du temps, puisque mon prédécesseur, il avait pas que cette mission-là, en fait. Donc, moi, je suis dédiée à 100% au sport de nature. Donc, ça
ce
a simplifié...
C'est une nouveauté pour le parc aussi de voilà, prendre exactement. En compte ces enjeux-là.
Exactement. Et ça a permis d'apporter des réponses beaucoup plus rapides. Donc, les Highlanders, on a eu une demande pour le festival aujourd'hui. Mais sinon, c'est principalement sur les grimpeurs. Et moi, depuis mon arrivée, j'ai traité 4 ou 5 demandes d'équipement. Donc sur un an et qui ont eu leur réponse dans les mois qui ont suivi ou même dans les semaines qui ont suivi la demande. Donc on essaie en tout cas de communiquer de plus en plus auprès des pratiquants, de leur dire que le but c'est de simplifier ces démarches. Après malheureusement on ne sait pas toujours ce qui se passe. On a eu aussi des cas de grimpeurs qu'on a vite su qui c'était. Mais qui ont fait les choses dans leur coin. Et puis, comme ça, tous s'évitent sur le Vercors, on a fini par aller les voir. Et puis, voilà. Mais on sait toujours qu'il y a des choses qui se font derrière notre dos. Le but, c'est de faire en sorte que ça se fasse le moins possible. Et en plus, il y a de la régulation qui se fait. C'est-à-dire qu'on a déjà vu aussi le cas avec des grimpeurs signalés, par exemple, une nidification d'aigle royal. Et par la suite, du coup, qu'il y ait des points qui soient déséquipés suite à l'observation de grimpeurs. Donc, heureusement, c'est pas toujours.
Il y a quand même de l'espoir en se disant qu'on peut collaborer ensemble pour préserver au mieux les milieux qu'on.
Voilà, et l'idée, c'est que la régulation, elle se fasse entre pratiquants, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, la Hélène, ça se passe très bien, la grimpe, ça se passe de mieux en mieux, mais il y a des sports, et on est en train de le voir aussi avec le parapente, où ça se passe pas toujours bien. Et malheureusement, ça conduit souvent à des interdictions parce que les gens se braquent et c'est pas l'idée en fait. Donc les pratiquants, ils sont aussi. Je pense que la plupart comprennent, peut-être qu'après Nico et Nils pourront répondre, donner leur avis, mais comprendre que en fait, si tout le monde joue le jeu, forcément ça aboutit à plus de simplicité plutôt que interdire que ça soit d'un côté ou de l'autre, ou au contraire de dire j'y vais quand même. Je m'en fiche. Et en fait, derrière, c'est une personne qui fait quelque chose, mais c'est toute la communauté derrière qui en pâtit. Oui,
Marie-Odile. Pour compléter ce que dit Noémie, on a l'exemple là, sur la Vierge du Vercors, donc, qui est un site de grimpeurs. Et là où il y a une Via Corda, c'est un site qui a été mis aux Désis, ça doit faire 25 ans. Voilà, avec au départ... justement une réglementation qui a été mise en place avec des interdictions par rapport à la nidification du faucon pèlerin. Et il y a eu la LPO est revenue pour voir justement quel a été l'impact de la pratique de la grimpe et la pratique de cette Via Corda depuis longtemps, donc depuis 25 ans. Et il se trouve qu'avec des interdictions, donc des interdictions sur certaines périodes, des interdictions aussi sur une partie de la falaise. Et il se trouve que le faucon pèlerin, qui était présent il y a 25 ans, mais il est toujours présent et il continue à nicher sur cette falaise.
Donc c'est un bel exemple de concertation qui fonctionne.
Voilà, ça fonctionne.
Oui, si les utilisateurs jouent le jeu, ça peut fonctionner. Le pèlerin, la Vierge cette année, il a effectivement couvé. Moi, je l'ai suivi. Hein. Il a couvé. Il y a eu un jeûne, certainement, et il n'y a pas eu de reproduction. Et après, le jeûne ne s'est pas envolé, en fait. Hein. Ça a foiré. Voilà. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a les grands corbeaux aiment bien les jeunes pèlerins. Ça a été vu. Un copain a vu carrément la prédation une année sur les faucons pèlerins ici, là, à la Vierge. Voilà. En tout cas, cette année, il n'y a pas eu de jeûne. Voilà, c'est ballon. Et oui, mais par rapport aux utilisateurs, ce qu'il y a, c'est que plus il y a du monde qui pratique, et c'est le cas, de que ce soit le parapente et la grimpe et tout ça, plus il peut y avoir des déboires. Et ce qui s'est passé pour l'aigle royal sur la Moucherotte, là, cette année, voilà, c'est terrible, parce qu'il y a eu une interdiction sur 300 mètres autour de l'air et qui n'a pas été respectée par...
Là, on est sur le Vercors Nord, du coup.
Voilà, par beaucoup de parapentistes. Voilà, donc les dirigeants on jouait le jeu, je pense. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui y est allé, bah, voilà, l'aiglon, bah, il a crevé. Quoi, voilà.
Ouais. Vercors Sud, on n'est encore pas dans ces surfréquentations. En tout cas, ce n'est pas exactement le même milieu.
C'est de la surfréquentation, oui, c'est ça, en fait. Hein, et après, bah, il se passe. Les règles ne sont plus respectées. Quoi.
Et en tant que pratiquant, vous, du coup. Quand peut-être vous êtes aussi, toi tu es président d'une association, toi tu es pratiquant historique de Highline.
J'étais président aussi d'une association et j'ai aussi organisé un événement de Highline dans le Royan.
Et du coup, quand peut-être que vous rencontrez des néo-pratiquants, des personnes qui découvrent la Highline et que peut-être vous partagez ces préoccupations-là, de trouver une entente, de prendre en compte ces paramètres pour mieux pratiquer, quel écho ça a vers les nouveaux pratiquants? Comment est-ce que c'est reçu? Est-ce qu'il y a de la curiosité? Est-ce que les gens prennent ça comme un frein?
On a fait quelques formations, des stages pour faire découvrir aux gens la Highline ou pour apprendre aux gens à installer des lignes. Et il y avait toute une partie liée justement aux autorisations parce qu'aujourd'hui, il y a peu de pratiquants qui installent des Highline. Sans autorisation et du coup dans toutes les démarches d'autorisation dès qu'on traverse l'espace aérien à plus de 50 mètres du sol il faut une autorisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État donc de l'armée et de l'aviation civile mais aussi de la commune des propriétaires du lieu et aussi consulter donc ça c'est soit les communes qui le font aussi, enfin, qui le font remonter et ça joue aussi dans ces concertations et la connaissance locale de dire bah, attention, il faut consulter le parc ou tel ou tel acteur, la LPO, parce qu'à cet endroit-là, il y a des espèces protégées. Mais nous, c'est sur nos projets, c'est ce qu'on fait maintenant à chaque fois et qu'on essaie de transmettre aux nouveaux pratiquants. Après, ça reste les projets d'envergure comme celui qu'on fait ici, ça reste une toute petite partie de la slackline. Le nombre de pratiquants a augmenté, mais la pratique dans ces espaces naturels-là de la Highline, le nombre n'a pas forcément augmenté, enfin énormément augmenté, et les nouveaux pratiquants forcément se réfèrent à des pratiquants déjà plus aguerris, et c'est devenu compris par quasiment tous qu'il faut respecter ces espaces-là, et pour la protection, et aussi pour la pérennité du sport et des échanges avec les acteurs.
Merci. Et Marie-Odile, moi je voulais juste rebondir et te poser une question. Donc là on est sur un exemple où il y a une concertation qui s'est trouvée, il y a eu un conventionnement, la commune a été partie prenante en fait de cet échange quoi. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être répété dans d'autres communes, peut-être du parc, peut-être ailleurs? Est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur toi, de ton point de vue en tant qu'élu d'une commune? Est-ce que ça vous apporte et est-ce que ça représente pour vous quoi? Est-ce que ce serait un modèle qui serait réplicable ailleurs?
Oui, je pense que ce qui s'est fait sur Saint-Julien peut se faire dans toutes les communes du Vercors. Alors, après, c'est vrai qu'il faut, au niveau de la commune, qu'il y ait au moins un élu
qui s'en empare,
voilà, qui s'en empare et qui passe du temps voilà, à cette concertation et à ces différents contacts avec les associations, elles sont nombreuses, voilà, avec les associations aussi de naturalistes, voilà, la LPO et autres. Et c'est parfois, moi, c'est pas fait parfois dans certaines communes, c'est pas par manque de motivation, c'est peut-être par manque de temps voilà, des élus.
Et d'outillage aussi ou pas? Parce que la concertation, ça demande quand même d'être outillé. Enfin, c'est voilà, gérer une discussion à plusieurs acteurs, parfois des désaccords. Comment est-ce que vous êtes outillé pour ça, pour faire une concertation?
Alors la concertation, en tant que commune, on est aidé par le parc. On a la chance d'être une commune du parc et on est aidé par le parc. Et on est aussi aidé par le département de la Drôme. Enfin, moi, je parle, voilà, au niveau du SDESI, on a aussi des soutiens, des conseils. Donc là, on est aidé, c'est plus un problème de motivation et puis de temps. On le sait bien, les élus quand même sont surchargés de travail et souvent n'ont pas suffisamment de temps.
C'est connu. Mais justement, juste pour finir, et puis après on va passer à une dernière partie assez courte de cette table ronde, mais le rôle du parc dans tout ça, donc là, Marie-Odile vient de dire qu'elle a eu un soutien du parc pour faire de la concertation. C'est à la fois de faire le lien entre ces différents acteurs, à la fois de trouver un compromis.
C'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire ouais. que moi, mon rôle, en fait, c'est de faire justement le lien entre tous les acteurs. Alors, des fois, il y a besoin de concertations poussées qui peuvent prendre plusieurs années. Et des fois, ça va être juste deux réunions et c'est réglé. Donc, ça dépend vachement du contexte. Et le but aussi du parc, c'est de... Enfin, moi, je suis au pôle tourisme. Mais en fait, je suis en lien quasiment quotidiennement avec le pôle biodiversité. Et le but, c'est justement de faire le... Enfin, en fait, il y a vraiment un rôle de médiation entre le pôle biodiversité du parc et les assos naturalistes et les pratiquants. Et moi, j'ai vraiment ce rôle, on va dire... entre guillemets neutre, avec l'idée justement de faire en sorte que les deux parties soient d'accord. Et le parc est justement là pour animer et trouver les compromis, rédiger les chartes, s'il y a des chartes à rédiger, puisque la Highline en est une, mais il y a des chartes canyon qui se font, il y a des chartes de grimpeurs qui sont en prévision, etc.
Ben, merci pour ces précisions. Et donc, là, on a pris donc, c'est le village de Saint-Julien-en-Vercors comme exemple, donc pour parler de conventionnement, de charte et compagnie. Mais en fait, ce projet de sa marche, il va plus loin. Il va aussi vers la convivialité, vers une rencontre entre les arts, la culture et une pratique sportive. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez aussi fait une collab avec le comité des fêtes, avec la commune, pour créer un moment voilà, dans le centre du village. Là, on est dans les jardins de ville. Demain, il va y avoir des spectacles, il va y avoir des jeux pour les enfants. Est-ce que tu pourrais, Nils, me parler un petit peu de cette volonté de créer des espaces de rencontre et de convivialité avec des non-pratiquants aussi ? Parce qu'en fait, le Vercors, ce n'est pas que des personnes qui font de la highline, ou de la grimpe ou du parapente, c'est aussi des gens qui habitent, qui jouent, qui soient petits ou grands. Et je voulais juste qu'on termine sur cette note de convivialité.
Bah, c'est vrai que notre pratique, elle est un peu particulière parce que c'est une pratique collective où, bien sûr, on ne peut pas installer une highline tout seul. Du coup, c'est beaucoup de rencontres au sein de notre communauté de slackers. Mais quand on venait sur des lieux installer des lignes, bah, on se retrouve un petit peu isolé dans une bulle où on ne rencontrait pas forcément les personnes qui habitaient le coin. Et du coup, pour nous, ça devenait de plus en plus important de pouvoir partager et notre passion, la faire découvrir un petit peu aux gens, et aussi de partager d'autres choses et de proposer l'animation, un lieu de rencontre où ça nous tient à cœur de venir rencontrer les gens qui habitent ces endroits qu'on trouve magnifiques et de pouvoir échanger, de partager. Et aussi en lien avec nous des artistes qui pratiquent des arts du cirque et de la musique. Et du coup, pour nous, c'est un moment d'échange et qui peut être chouette justement pour rencontrer tous ces gens qui connaissent pas notre sport, notre pratique. Et puis c'est toujours chouette, toujours bien d'avoir ces moments conviviaux de nos jours.
Ça, c'est sûr. Et Marie-Odile, du point de vue d'une commune, du coup, à qui on a demandé d'organiser, de faire une collaboration pour un événement, pour un week-end comme celui-ci, comment est-ce que tu l'as reçu ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ?
Le contact, il date de plus d'un an, je crois. Voilà. Et nous, bien sûr, on se réjouit de pouvoir proposer aussi à nos habitants de voir les choses différemment, de les initier à la slack. Voilà. Les enfants vont pouvoir s'amuser. L'association amène aussi de la culture, hein, puisqu'il y a les arts du
cirque. Il y a du théâtre du
cirque,
demain.
Voilà, ouais. il y a de la musique.
Et il y a un film ce soir.
Il y a un film ce soir. Donc pour nous, communes, et pour nos habitants, eh ben, c'est un plaisir quoi, de pouvoir échanger avec les associations de Highliner pour cet événement. Et on a préparé ça depuis un an ensemble, par échange de mails, puis après de se rencontrer physiquement. Et on est très heureux de les accueillir.
Ben super, merci pour ce retour d'expérience. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur cette rencontre, peut-être entre une pratique sportive, les arts, la culture, la convivialité pour le parc, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous êtes à l'origine peut-être d'autres événements comme ça
Alors, on n'est pas forcément à l'origine d'événements. C'est souvent des gens qui viennent nous demander et on donne un avis ou on accompagne.
En tout cas, ça permet d'ouvrir des sphères.
Voilà, mais je peux dire sur la Highline, c'est vraiment un exemple positif en fait de concertation qui se passe bien et qui s'est toujours bien passé. Et c'est vrai qu'on parle souvent de ce qui se passe mal et des. Les médias adorent relayer toutes les tensions qu'il peut y avoir entre pratiquants et biodiversité, mais en fait, c'est important de souligner qu'il y a de nombreux exemples qui se passent bien et sur plein de sports, sur le Vercors, le canyoning, l'escalade, le parapente, en fait, il y a plein de choses qui se passent bien et la Highline en fait partie et c'est important d'en parler, quoi.
Et on peut peut-être rappeler justement le nom de l'outil qui a été mis en place, donc à la fois pour les pratiquants de verticalité, si on pourrait les appeler comme ça, même si vous, c'est horizontal finalement, ça va pas. En tout cas, ça correspond, enfin ça s'adresse aux grimpeurs et aux highliners, highlineuses.
Donc c'est une plateforme qui s'appelle Biodivertical. On peut la retrouver en tapant dans Google depuis peu, mais sinon sur le site du parc, dans tourisme et organisation des sports, il y a donc décrit toute la démarche en fait qu'il y a pour faire des demandes aussi bien en escalade qu'en highline. Donc c'est moi, entre autres, qui reçois les demandes et qui les relaye ensuite auprès du service biodiversité du parc, de la LPO, de l'ONF parfois, etc.
Et puis les personnes peuvent peut-être aussi s'adresser directement à vous aussi, ça marche, s'ils ont des curiosités, des questions pour la manière de faire les choses. Ça, est-ce que vous avez des contacts à nous partager, un site web ou une adresse mail ?
On a un site internet, ça marche association. On a aussi une page Facebook et une page Instagram.
Ok.
Qui est peu alimentée, mais on pourra répondre aux questions s'il y en a, avec plaisir.
Et François, est-ce que si des personnes qui pratiquent ces espaces repèrent un nid, repèrent une espèce, un oiseau, une fleur, qui a une curiosité, qu'on sent qu'il y a une fragilité, est-ce qu'on peut solliciter la LPO Royan-Vercors pour remonter des infos ?
On attend que ça, hein, d'avoir des infos. Et on en reçoit régulièrement des infos et le premier truc, c'est d'aller voir. Parce que des fois, il y a des erreurs, parce que tout le monde ne connaît pas. Et l'idée, c'est d'aller voir tout de suite, Et puis ça fonctionne bien sûr. Nous, on est prêt à recevoir toutes les informations. D'ailleurs, nous, on a un site pour de toutes les observations. Hein.
C'est
Biolovision. Maintenant, c'est Naturaliste. Voilà, sur Naturaliste, c'est une base de données. Voilà, la base de données de la LPO au niveau national et local. Et là, tout le monde peut mettre ses données dessus. Elles sont toutes vérifiées. Hein. S'il y a des trucs, si on voit des kangourous sur le haut plateau du Vercors, ça passera pas.
Mince. Mais, voilà.
Donc tout est vérifié, mais voilà, c'est ce genre de choses. Nous, s'il y a des données exceptionnelles, eh bien on va voir.
Puis vous êtes aussi un bon réseau, vous vous déplacez facilement.
Ah oui, on se déplace.
Vous rayonnez sur tout le Royan Vercors.
En Skyline, non, on fait
pas encore. merci en tout cas pour cette table ronde. C'était un chouette moment donc pour échanger sur cette rencontre de la Highline et de la biodiversité et puis des différents acteurs communaux, parcs, asso. Merci à vous cinq pour votre participation.
Merci.
Merci Charlène.
Merci Radio Royan Vercors.
Ah, merci François pour cette fin.